Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, bienvenue sur un flash résultat du week-end. On va parler donc des résultats des clubs charentais ce week-end avec des victoires, des défaites un peu comme d'habitude. Et nous allons commencer par le football et l'ACFC qui recevait la réserve de Lorient. C'est un match important pour les Angoumoisins qui défiaient Lorient, le premier relégable. Et malheureusement, c'est une courte défaite pour l'ACFC, 1-0. Un but marqué par Eddy Croupy Junior, le fils d'Eddy Croupy, ancien attaquant lorientais, à la 46e minute, donc 45+1. En seconde période, la CFC aura tout tenté, mais malheureusement n'aura jamais pu revenir au score. Et donc, c'est une défaite 1-0 pour les Angoumoisins. Dans les autres matchs du week-end, Romorantin gagne aux Herbiers 3-0. Gaul perd à domicile contre Chamalières 1-0. Bergerac bat Nantes 2-0. Trélissac bat Vierzon 2-0. Saumur bat Moulins 2-0. Et enfin, le Stade Bordelais bat Bourges 2-0. Et Angers bat Andrézieux 1-0. Noté, aucun match nul dans cette poule. D'habitude, c'est une poule avec beaucoup de matchs nuls. Et cette fois-ci, aucun match nul. Au classement, Bergerac prend la première place avec 44 points. Deuxième, les Herbiers 43. Troisième, Gaulle 41. La CFC descend à la septième place avec 36 points. Et surtout, n'a plus que 4 points d'avance sur Andrézieux et Lorient, qui sont actuellement 11e et 12e. Donc, pour les Bleus, ça n'est pas forcément une belle opération. En parlant d'opération, mais justement, on va écouter le bilan de Patrick Sincheux, le gardien de la CFC, que nous avons rencontré à la fin du match.
Patrick, défaite malheureusement 1-0 face à Lorient. Vous faites cueillir dans le temps additionnel de la première mi-temps. C'est finalement le plus mauvais moment pour encaisser un but.
Exactement, c'est vraiment la mauvaise période parce qu'on rentre avec, avec un but de retard. Donc on essaie de pousser en deuxième pour revenir au score, mais malheureusement, on n'a pas réussi.
Vous heurtez face à cette équipe de Lorient. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas gagné depuis le match, on s'est rendu compte que c'était une belle équipe en face de vous.
Oui, bien sûr. Dans cette poule, il y a des mauvaises séries comme des bonnes séries, mais il ne faut pas se fier aux anciens matchs. Donc, vu comment le classement est serré, on sait que tout le monde a de la qualité et tout le monde peut avoir des bonnes comme des mauvaises performances.
Et puis malheureusement, pour Angoulême, c'est la première défaite à Le Bon depuis novembre. C'est une défaite qui, du coup, peut potentiellement faire revenir les équipes derrière vous au classement.
Oui, c'est sûr. C'est une défaite assez dure à encaisser. Parce qu'on s'est donné à cœur de faire une série, surtout qu'il nous restait 3 matchs à domicile. On avait à cœur de gagner devant un public. Parce que c'est vrai qu'on prend plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Et on essaye que les prochains matchs, en tout cas, de remporter les 3 points.
Et pour conclure, qu'est-ce qui, selon toi, vous a manqué ce soir pour au moins arracher cette égalisation en fin de match?
Je pense réaliste. Après, le gardien fait quelques parades aussi. On a été assez agressif, je pense, sur les 20 dernières minutes. Après, ça a manqué sur le dernier geste. Malheureusement, c'est le foot, c'est comme ça.
Voilà, forcément, une défaite qui rabat les cartes pour la CFC concernant le maintien. Les Angoumoisins auront d'ailleurs un match hyper important vendredi soir, hein, du côté d'Andrézieux ou au stade de l'Envol, où Andrézieux, justement, premier relégable, les Angoumoisins tenteront d'aller s'imposer là-bas, comme ce fut le cas en 2019 avec le but de Gaëtan Lacroix à la 96e minute. Donc on espère pareil scénario pour les hommes de David Gigel. En Régional 1, c'était le derby, le derby de R1 entre Cognac et Angoulême. Une équipe de Cognac qui avait un absolu besoin de victoire, hein, pour encore croire au maintien. Et par rapport à la CFC, il fallait prendre les derniers points justement pour valider ce maintien. Et au final, le duel aura tourné en faveur de la CFC qui s'impose 2-1. Ouverture du score pour Cognac avec un but de Mickaël Bourigny à la 8e minute. Mais les Angoumoisins ont réagi. Arthur Guéné marque à la 31e minute. Et surtout, Julien Inizan marque à la 96e minute pour une victoire hyper importante de la CFC qui compte désormais 13 points d'avance sur Cognac et 12 points d'avance sur Hill. Donc, sachant qu'il reste 5 matchs, donc 15 points à prendre, les hommes de David Perrier sont très 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 proches du maintien. En Régional 3, il y avait aussi quelques matchs, il y avait aussi un match précisément, avec un derby charentais entre Pimoyen et Vindel, score final 0-0, un point de plus pour Pimoyen qui creuse l'écart par rapport à Verneuil sur Vienne, qui les Pimoyennais comptent désormais 3 points d'avance sur Verneuil. Vindel, avec 11 points d'avance sur le 9e, peut voir venir et reste bien ancré en milieu de tableau. En district, quelques matchs en retard également. Victoire de Moutier 3-1 du côté de l'Alliance 3B. Et victoire de Leroy 5-4 contre La Couronne. Un match hyper important pour le maintien. Et donc, Leroy fait la très bonne opération du week-end, hein, en passant 8e avec 22 points. Et il laisse La Couronne 10e avec 17 points. Une D1 de district toujours dominée par Champigny avec 37 points devant Saint-Michel et Vasso avec respectivement 36 points et 34 points. En D2, quelques matchs en retard également. En poule A, Verdi et Saint-Alix ont fait match nul 2 partout. Et enfin en poule B, Saint-Séverin est venu gagner à Saint-Brice 2-1 et Montmoreau a été gagné à Sud-Charente 4-3. Au classement, Saint-Séverin est 4e à égalité avec Grande Champagne. Et donc Montmoreau finalement eh bien fait la bonne opération du week-end hein, en prenant 7 points d'avance sur Chazelle. Les hommes de Fabien Richard sont bien partis pour se maintenir. En handball, en National 2 masculine, il y avait une défaite de l'ETEC à Limoges le week-end précédent. Eh bien, les hommes de Rémi Fiogère ont réagi brillamment en s'imposant à domicile contre Bègles. Victoire 42-27. Une victoire donc qui sécurise pratiquement la deuxième place des Charentais dans cette poule 1. Avec toujours 4 points de retard sur Bruges. Mais l'ETEC compte 5 points d'avance sur Asson. Donc cette deuxième place est presque validée pour les Charentais. En National 1 féminine, défaite de la CH à domicile contre le leader Pessac, défaite 39-20, une lourde défaite hein, pour les filles de Mike Bidorini. Et enfin, Cognac s'incline également du côté de Bergerac, une défaite de 15 buts, 37-22. Donc au classement, Cognac est toujours dernier avec 22 défaites en 22 matchs. Et la CH descend à la 7e place, mais avec seulement 3 points de retard sur le 3e et 2 points de retard sur le 4e. La CH est 7e avec 44 points. 11 victoires, 11 défaites, bilan équilibré pour les Angoumoisines. En basket, en pré-national, la CTC Grand Cognac rattrapait son match en retard, c'était à Saint-Rogatien. Victoire de la CTC Grand Cognac 71-56, une victoire qui leur permet de revenir premier à égalité avec la réserve du CSP Limoges. Donc pour les Cognacés qui sont toujours en lice pour la montée, ça va être vraiment deux derniers matchs au couteau entre Cognac et Limoges. Et d'ailleurs, le prochain match pour la CTC Grand Cognac, ce sera un déplacement au CEP Poitiers. Le CEP Poitiers qui est actuellement 6e, tandis que Limoges recevra Limoges Landouze, l'actuelle lanterne rouge du championnat. Donc on peut supposer que les deux équipes vont l'emporter. Enfin, on va terminer par de la course avec le trail de Moutier, la monastérienne. Victoire chez les hommes de Simon Fusilier et victoire donc qui vient de la Vienne. Et victoire chez les femmes de Samula Dolimon du G2A. Il y avait 400 coureurs au départ de ce trail de la Bohème, donc c'est plutôt une belle réussite pour la course qui s'est lancée du stade de Moutier, donc le stade Pierre Desvages, en hommage au président de Moutier, en activité toujours, et donc c'était une belle réussite pour ce trail. On retrouve tout de suite Culture Sport, où nous avons retrouvé Greg Black, qui va nous raconter ses 24 heures du Mans, qui malheureusement ont été rapidement annihilé par une chute lors du deuxième virage et puis derrière le CERT a tenté de remonter au maximum. On vous compte ça tout de suite dans Culture Sport et nous on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bonjour, vous êtes bien sur Attitude. Attitude c'est 98.3 sur Angoulême, 90.7 pour le Nord Charente, www.attitudefm.com et vous êtes bien dans Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui un champion du monde d'endurance moto, c'est Greg Black. Greg, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue.
Bonjour, et avec plaisir.
Donc j'accueille Dédé, donc la mémoire vivante du sport en Charente.
Ouais, salut à tous.
Salut mon Dédé.
Vous allez bien?
Bienvenue.
Christian, bienvenue à vous aussi.
Oui. Christian, l'homme orchestre, spécialiste donc des sports mécaniques, qui va pouvoir animer la conversation.
Allez, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Parfait. Donc, ce que je te suggère, Christian, c'est de poser la première question à Greg. Peut-être faire un tour sur la saison passée, peut-être.
Oui, on avait reçu Greg après les 24 heures du Mans, à peu près à la même période de l'année. Donc c'est vrai que derrière, par rapport au championnat du monde d'endurance, il y avait eu trois épreuves avec les 24 heures de Spa, les 8 heures de Suzuka et le Bol d'Or. Donc Greg, je te suggère dans un premier temps de nous compter cette fin de saison dernière.
Ouais, tout à fait. Donc la saison dernière était plutôt bien partie avec une victoire aux 24 heures du Mans. Après qu'on avait discuté, enfin on a discuté ensemble juste après. Et ensuite on a été à Spa-Francorchamps, une première épreuve retour en Belgique, une épreuve de 24 heures. Donc c'était hyper intéressant d'aller là-bas. On a des conditions difficiles, la nuit pas très éclairée sur le circuit. Et au final on avait la possibilité de jouer la victoire là-bas. On a eu un problème mécanique, une casse de la boîte de vitesse. Et au final, sur la course, on a fini quatrième. Donc, des points importants pour le championnat. Ensuite, on a été à Suzuka. Suzuka est une épreuve qui est spécialiste des teams et des équipes japonaises. Les constructeurs ont vraiment des motos japonaises spécifiquement pour cette course-là. Donc, on sait que c'est difficile, mais au final, on s'en est bien tiré. Puisqu'au début de semaine, mon coéquipier Sylvain Gatoli s'est blessé. Donc, on a fini la course. On a fait la course à deux pilotes, moi-même et mon coéquipier Kazuki, le japonais. Et on a fait un résultat assez extraordinaire là-bas. On a fini troisième à deux pilotes. Donc, c'était un résultat hyper encourageant et plutôt positif pour le championnat. On a fini premier team du championnat AWC qui fait le championnat complet. Et ensuite, pour finir, donc on était en tête du championnat du monde. Il nous suffisait de marquer les points nécessaires à la course du Bol d'Or, où une épreuve qui nous a souvent souri et où on a eu des bons résultats. On était assez confiants. Et malheureusement, malgré des bonnes qualifications et en tête de la course pendant la première heure, on a eu une casse moteur inattendue, ce qui nous a fait perdre toutes nos chances au titre. Et donc, c'est la Honda TSR qui a été champion du monde. Et nous, on était un peu impuissants face à ça, puisque on n'était pas en course, on n'a pas pu défendre notre titre et au final on fait vice-champion du monde, une place que beaucoup de personnes aimeraient avoir, mais pour nous c'était un peu une déception. Après nos deux titres de 2020 et 2021, on aurait pu faire la passe de 3, mais ça n'a pas été le cas.
Oui, finalement, vos malheurs au Castellet reprend une célèbre phrase de l'endurance, c'est que finalement tout est possible en endurance, du bon côté. Exactement. Comme du mauvais, malheureusement.
Exactement, c'est des courses qui sont divisées, longues, avec des rebondissements à tout moment, qui peuvent parvenir à tout moment, et du coup, tant que le drapeau à gamier et de la dernière course n'est pas tombé, on ne sait pas ce qui peut arriver.
Et c'est vrai qu'en fin d'émission l'an dernier, on avait évoqué donc ce circuit de Spa-Francorchamps que vous alliez découvrir quelques semaines plus tard. Quelles ont été justement tes sensations sur ce circuit de Spa? Tu nous parlais notamment de l'éclairage. Est-ce que tu sais s'ils ont refait l'éclairage pour cette année, puisque ce sera encore une épreuve de 24 heures?
Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se dérouler. C'est supposé être une course de 24 heures. Ça a été pour parler de peut-être modifier ça. On attend un peu les nouvelles du championnat pour savoir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, c'est une piste magnifique. Sûrement l'une des plus belles pistes du monde à rouler, avec la vitesse et les virages assez impressionnants. Donc c'était une très belle piste à découvrir pour nous en moto, malgré que ce soit une piste qui n'est pas la plus sécure au monde. On a quand même des points un peu dangereux, ils ont essayé de les améliorer, mais ça reste une piste un peu délicate si on tombe, sachant qu'on roule à plus de 300 km/h à certains endroits. Donc il faut faire un petit peu attention, garder une marge de sécurité. Maintenant voilà, ça reste une piste magnifique. On a eu des soucis d'éclairage, effectivement, aux essais en amont de la course. On a pu faire quelques tours de nuit en voiture pour voir, et on a rapidement notifié qu'il y avait un éclairage. Et ils n'avaient pas misé vraiment sur un éclairage très puissant. Et donc à la course, ils ont réagi en remettant des lampes supplémentaires, ce qui nous ont aidés. Mais malgré tout, l'éclairage était très loin d'être comme il peut l'être au Castellet ou au Mans. Donc c'est pour ça, cette année, je sais pas comment ça va finalement se dérouler, cette épreuve, si on va pouvoir courir toute la nuit ou pas, ou s'ils vont changer un peu le format. Ils parlaient éventuellement, j'ai entendu parler justement sur Eurosport, sur l'équipe et de nous, des organisateurs, ils parlaient éventuellement de faire deux courses, le samedi et le dimanche, mais pour l'instant on a vraiment aucune nouvelle de ça.
Et puis c'est vrai que cette épreuve là elle avait été marquée en fin d'épreuve au petit matin par une longue interruption avec beaucoup de, je crois que c'était de l'huile qui était sur la piste. Et au final, cette épreuve de 24 heures, elle s'est résumée en un sprint en fin de course.
Ouais, c'était une épreuve particulière, pas forcément dans notre avantage. Il y a eu des confusions entre les organisateurs et les teams. Après une moto qui a répandu l'huile effectivement sur la piste complète, il y a eu beaucoup de chutes, beaucoup de problèmes avec la pluie en plus.
Oui.
Et ensuite il y a eu beaucoup de discussions en interne qui se sont faites, savoir si l'épreuve allait s'arrêter, si on a passé plus de 2 heures les motos arrêtées, et donc on savait pas si l'épreuve allait être relancée, si ça allait finir sur safety car. Et finalement, après tout ce chaos, les teams n'ont pas été prévenus de la même manière, et donc ça a fini en mini sprint avec des erreurs de part et d'autre. Mais c'était pas finalement très important pour nous, parce que le but c'était de marquer des points et de finir en sécurité cette course-là. C'était surtout ça qui comptait, donc vu la dangerosité de la piste à l'intérieur que c'était à ce moment-là.
Il valait mieux perdre une place que chuter au final.
Exactement.
Et puis malheureusement vous perdez ce titre de champion du monde d'endurance, et on apprenait dans le même temps que Suzuki se désengageait notamment du championnat du monde de MotoGP, enfin des épreuves de vitesse. Est-ce que toi du coup il y a eu des tractations durant cet hiver pour changer d'équipe, ou au final continuer avec le Sergio Shimura c'était une évidence du moment que tu savais que ça allait continuer?
C'était pas l'évidence du fait qu'effectivement Suzuki ont décidé de sortir du MotoGP. Au début, c'était assez certain qu'il allait continuer l'endurance, mais au final, arrivé vers le mois de juillet, c'était beaucoup moins certain. Et donc, en discussion avec l'équipe, ils m'ont dit, sachant la suite, il faudrait mieux que tu discutes avec d'autres teams. Et les discussions ont été ouvertes avec d'autres marques. Elles étaient assez avancées, malgré que ma priorité reste de continuer avec Suzuki si l'aventure continuait. Et donc, on a attendu assez longtemps pour avoir des réponses précises. Et au moment où j'ai pu avoir les réponses précises de Suzuki, à ce moment-là, j'ai préféré détourner les offres des autres équipes, sachant que ça se déroule très bien et j'avais aucune raison d'aller dans une autre équipe, malgré que ce sont aussi des très bonnes équipes. Mais pour moi, j'ai réussi à me former et à travailler correctement avec l'équipe Suzuki et à gagner des titres. Et l'année dernière, on aurait également pu gagner un titre, ça n'a pas été le cas. Mais je sais que c'est l'équipe avec laquelle on peut gagner des courses et des titres. Et c'est pour cette raison-là que j'ai préféré rester dans l'équipe quand on a eu la certitude que Suzuki continue l'aventure pour l'endurance. Et donc la saison s'est relancée et cet hiver était assez serein puisqu'on savait qu'on allait continuer l'aventure avec Suzuki et le Shimura et le CERT.
Bon, et puis en 2023, du coup, le trio pilote a peu changé puisque Xavier Siméon a arrêté, je crois. Et donc, tu restes avec Sylvain Gattoli. Et il y a un ancien de la maison qui revient, c'est Étienne Masson. Étienne Masson qui était notamment parti piloter chez Ducati. Étienne Masson donc revient au CERT cette saison.
Exactement, c'était un élément fort de l'équipe. Il a été remplacé à un moment donné par Sylvain Gattoli qui était pilote imposé par Suzuki.
T'avais couru avec lui d'ailleurs sur le premier titre de champion du monde, non?
Ouais, tout à fait. Et donc là, ça paraissait logique pour toute l'équipe que Étienne Masson réintègre l'équipe suite au retrait de Xavier Siméon. Et donc, ça a été chose naturelle et faite que le retour d'Étienne. Un point positif pour l'équipe. On sait que c'est un pilote rapide et solide qui fait le travail et le trio Sylvain Gattoli, Étienne Masson et moi-même. C'est le trio parfait pour défendre un nouveau titre et essayer de gagner les courses.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'équipage homogène, alors vous l'êtes, est-ce qu'il n'est pas forcément le cas de toutes les équipes, notamment on voyait beaucoup l'équipage de la numéro 11 de la Kawasaki avec Randy Depigny, ces deux compères japonais qui n'étaient pas forcément, enfin en tout cas c'est ce que disaient les commentateurs, hein, loin de moi d'aller juger la rapidité d'un pilote, mais c'est vrai que c'est hyper important d'avoir trois pilotes homogènes et qui se connaissent en plus.
Ils se connaissent, qui effectivement ont un peu le même style de pilotage, qui arrivent à travailler dans le même sens pour régler la moto de la même manière. Même bois, même taille, c'est toujours plus facile et c'est notre cas, on roule tous de la même manière et il y a d'autres équipages qui où c'est moins évident, où le gabarit des pilotes change, le style des pilotages, et ce qui fait que ils sont moins homogènes et c'est plus difficile pour eux d'être aussi constant et aussi solide que notre équipe.
C'est Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Merci de votre fidélité, nous retrouvons Greg Dac qui répond aux questions de Christian Pédédé.
Et avant de parler du Mans, bon, on va forcément parler des pré-Mans. C'est des essais qui se déroulent quelques semaines avant la course, histoire de prendre la température. Vous avez aussi fait des essais en Espagne. Comment tu sens la moto cette saison?
Plutôt bien. On a pas énormément d'évolution sur cette moto. L'équipe a travaillé tout au long de l'hiver pour rectifier quelques petits points techniques, nous apporter des améliorations. Ça a été chose faite. Donc, quelques petites nouvelles pièces à essayer lors des essais, les premiers essais qui sont déroulés début mars à Jerez en Espagne. On a pu travailler 3 jours complets. C'était très productif et positif. Et on attendait principalement les essais pré-Mans pour voir répercuter ces réglages et ces nouveaux atouts techniques au Mans. Et finalement, aux essais, on a pu voir que ça a fonctionné. On a pu rouler dans différentes conditions. Et on était assez satisfait du rythme de la moto, de la performance. Même si c'était très ressemblant à la moto de 2022, on a pu voir que les chronos étaient améliorés. On a pu accélérer un peu le rythme et être solide. Donc, on était assez confiant pour la course. Après, on a également vu les autres équipages très forts, mais pas forcément plus forts que nous. Ils étaient, on va dire, sur la même lignée. On était tous les 3-4 équipes près du même niveau.
Alors, il y avait déjà une densité l'an dernier, mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a encore que vos concurrents se sont améliorés, que ce soit les champions du monde anti, désormais la TSR Honda hein, qui a fait un week-end pratiquement parfait, le Yard toujours rapide, mais cette fois endurant aussi et surtout qui ne casse pas son moteur. Et puis derrière, on a aussi des bonnes équipes comme la BMW de Jérémy Guardoni, la Tati Team aussi qui est toujours en embuscade avec l'endurance, même mon collègue Lucas Mayas qui a repris le guidon cette année. Enfin, c'est vraiment championnat du monde hyper intéressant, hyper homogène, et forcément se dégager de cette concurrence là c'est pas facile.
Ouais, bah le championnat attire de plus en plus de constructeurs et de pilotes. C'est un championnat où le niveau est vraiment relevé, on le voit avec un Lucas Mayas qui qui roulait dans le top 10 du monde sur bike et finalement il est arrivé là, il a fait des bons résultats, mais il n'est pas plus rapide que le reste des pilotes. Donc ça prouve bien le niveau des pilotes actuels en endurance et des machines qu'il peut y avoir en endurance. Donc c'est assez positif pour nous et ça a attiré énormément de monde. Donc plus il y a l'équipe forte, plus ça va créer du spectacle, attirer du public et des partenaires. Donc c'est très bien. Maintenant pour nous, il est clair que nos rivaux principaux restent la Yamaha New York, la Honda TSR et la BMW. Oui. C'est vraiment ces trois équipages-là qui sont nos adversaires principaux en rythme et en machine, on va dire. Et après, il y a les équipages qui sont pas les moins les équipes officielles ou qui le sont de un peu plus loin. C'est la Ducati, la Kawasaki la 11, bien sûr la Tati, et maintenant la nouvelle moto, la KM99. Sans oublier la Vintaïs, la 333. Oui. Toutes ces motos-là, ces cinq motos sont des motos qui peuvent à tout moment venir nous déranger, on va dire, ou essayer d'être faire partie de la course et être aux avant-postes. Mais généralement, c'est vrai que si on n'a pas de problème et qu'on arrive à imposer notre rythme, on sait qu'on peut être en régularité un poil plus rapide que ces cinq équipes.
Et puis c'est vrai que c'est hyper homogène au final aussi, parce que l'an passé donc t'avais fait le record de la piste en 1:36.0 il me semble. Et cette année t'as plusieurs pilotes qui sont passés en 1:35, donc ça veut vraiment dire que la rapidité que les pilotes ont augmenté encore d'un cran.
Ouais, c'est très similaire, le rythme était assez similaire. L'année dernière on a eu des conditions légèrement plus chaudes, et oui, ce fait, qui ouais. permet pas forcément de faire des chronos plus rapides. C'est pour ça l'année dernière le chrono que j'avais fait c'était à peu près 4h du matin, et cette année les conditions fraîches nous ont permis de rouler plus rapide. La piste était plus rapide en tout cas cette année avec les conditions fraîches, donc ça a permis à plus de pilotes de pouvoir s'exprimer et faire les chronos qui étaient quand même assez similaires.
D'accord, donc quand il fait plus chaud, on va moins vite, grosso modo.
Exactement. Plus okay. il fait chaud, moins on va vite. Ouais. Plus agréable, mais moins on va vite.
Et puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est que au final, je compare un peu tes temps en journée et la nuit. Parfois, tu roulais pratiquement aussi vite la nuit qu'en journée.
Tout à fait. Je crois que je fais l'un des meilleurs temps vers 2h du matin encore. Donc, ça change pas grand-chose pour nous. C'est surtout les conditions climatiques qui changent. Et puis là, vu que c'était la même température à peu près la nuit que le jour, on arrivait à rouler à peu près dans le même rythme selon les pneumatiques du moment et selon les conditions de la piste, parce qu'il y a quand même eu énormément de safety car et d'huile posée sur la piste. Alors, c'était pas toujours évident d'avoir une piste par contre.
Comment on gère le fait, finalement, ce circuit de Bugatti, vous le connaissez parfaitement, vous y allez tous les ans, puis vous faites un nombre de tours, des centaines et des centaines de tours. Comment on gère pour pas que ce soit grisant et pour que ce soit pas routinier entre guillemets de rouler dessus?
Ça reste jamais une routine, rouler cette moto à quasiment à tous les tours, à prendre 300 km à l'heure. La piste finalement c'est toujours la même, mais c'est jamais la même. Donc les sensations qu'on peut avoir, le rythme qu'on impose fait que la piste devient jamais ennuyante en fait. Hein. Toutes les pistes finalement se ressemblent, comme on dit, c'est que des virages à droite, des virages à gauche et des lignes droites, après il suffit de s'adapter. Donc toutes les pistes sont similairement pareilles. Après c'est le plaisir qu'on arrive à prendre sur la moto et pour la course.
Est-ce qu'on pourrait connaître votre biographie, c'est-à-dire vous êtes né ou vous êtes d'origine d'où et comment vous êtes notamment venu en Charente, parce que voilà, c'est très intéressant de savoir un petit peu le passé et l'avenir de Greg.
D'accord. Tout simplement, moi je suis né en Angleterre à Derby, donc vers Nottingham, avec mes parents qui sont tous les deux anglais. Et à l'âge de 4 ans...
Pardon Greg, vos parents sont de...
De la ville de Derby, donc à côté de Nottingham, en Angleterre.
D'accord.
Et du coup, mes parents sont venus en France quand j'avais 4 ans, donc j'ai vécu, depuis ce moment-là, j'ai toujours vécu en Charente, et fait toute mon éducation, ma scolarité en France.
Vous êtes toujours en Charente?
Ouais, toujours, ouais. À côté de Confolens.
Et puis d'accord. En plus, il porte le numéro 16.
Tout à fait.
Comment vous vous organisez avec l'équipage Suzuki pour notamment vous entraîner? Comment vous faites pour notamment partir? Vous partez une semaine avant, 15 jours, la préparation se fait où? Puisque si vous êtes de Charente, je suppose que vos coéquipiers sont pas du département.
Ouais, exactement. Mon coéquipier, donc Tim Masson, il est de Bourg-en-Bresse. Et Sylvain Gattoli est français, mais à l'inverse de moi, il a sa vie en Angleterre depuis des années, sa femme et sa vie en Angleterre. Donc nous, c'est différent au sport collectif. On est un peu des indépendants, on s'entraîne de notre côté, que ce soit sportivement ou en entraînement en moto. On a tous nos motos personnelles avec lesquels on roule. Et le team organise des événements, donc des entraînements, pas énormément. Justement, cette année, on a eu que 3 jours à Jerez et 2 jours au Prémont avant l'épreuve des 24 heures du Mans. Et là, du coup, la prochaine fois, on retrouve l'équipe, c'est à la course de Spa-Francorchamps. Donc, avec la moto de course et le team, on les voit assez rarement. Il y a peu d'entraînements ensemble. Et les déplacements, tout dépend. Là, par exemple, quand je vais au Mans, je monte en voiture avec mes accompagnants pour qui me filent un coup de main pour la course. Et après, à Spa-Francorchamps ou au Mont d'Or, vu que c'est un peu plus loin, on essaie de trouver des avions. Donc, avec mes affaires de moto, je pars souvent de Bordeaux pour me rendre sur les circuits.
C'est quand même une sacrée organisation.
Ouais, ça demande pas mal de logistique entre toutes les activités de piste ou les activités que je fais à côté. Ça demande une belle organisation pour tout mettre en place à l'année. Donc l'hiver, ça demande un peu de travail pour tout mettre en place.
Vous vous entraînez où en Charente? Ça doit être compliqué du côté de Confolens.
Ouais, bah je m'entraîne. Il y a des circuits, donc il y a le circuit du Val de Vienne, du Vigan, qui est à 15 minutes de chez moi. Donc c'est un circuit où c'est facile de rouler. Après, je roule sur les plus petits circuits, en sur motard ou en petite moto, où je peux rouler. Il y a 5 ou 6 circuits aux alentours. Et après, en différentes disciplines, quand on roule en enduro ou en motocross, c'est assez facile. Et ensuite, bah l'hiver, souvent vu que la météo est pas très clémente en France. J'essaye de descendre en Espagne où là beaucoup de pilotes s'entraînent, où ça me permet de rouler en vitesse, donc avec une Suzuki G6000 qui est plus typée d'origine, mais qui est pas forcément similaire à celle de course, mais qui donne des sensations quand même proches. On essaie de rouler en Espagne sur des circuits Cartagena, Almeria, des circuits de l'Espagne au mois de janvier-février, et après également rouler dans différentes disciplines. Je roule pas mal en flat track, en surmotard aussi en Espagne. Et on retrouve au même moment beaucoup de pilotes de Grand Prix ou de Superbike qui s'entraînent en même temps, et ça permet de faire les choses ensemble, et c'est un bon moyen de les entraîner.
Oui, finalement, vous êtes un peu comme les cyclistes. L'hiver, vous allez chercher le soleil.
Exactement. On préfère le soleil que le froid. C'est quand même mieux.
Et d'ailleurs, en parlant de cyclisme, il me semble que tu fais pas mal de vélo aussi. Est-ce que, en dehors de la moto, est-ce qu'il y a des sports recommandés ou recommandables pour les motards qui font de la compétition? En gros, quelle partie du corps il faut renforcer en priorité?
Bah, la moto, c'est un sport qui fatigue tout le corps. Après, c'est un sport de fond, mais aussi où il faut être tonique, qui est un petit peu musclé quand même, et un peu de force. Donc, on essaie de travailler sur tous les points. Après, chaque pilote a sa manière de travailler et sa façon de faire son sport. Mais de mon côté, je trouve que c'est bien d'être bon dans plusieurs sports différents pour essayer de travailler plein de choses, que ce soit on va dire musculairement, niveau renforcement, ou des sports de fond comme la course à pied, le VE, la natation ou d'autres sports où on peut justement travailler son corps en différentes manières pour être le plus performant possible sur la moto.
Vous écoutez Attitude 98.3 sur Angoulême, 90.7 pour Ruffec et Nord-Charente, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Nous, vous êtes bien dans votre émission Culture Sport. C'est votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30. Nous recevons aujourd'hui Greg Black, champion du monde d'endurance, qui répond aux questions de Christian et de Dédé.
Est-ce que la préparation, elle diffère entre, par exemple, entre un Fabio Quartararo qui pilote du MotoGP et donc qui est plutôt sur de la vitesse, et toi qui est plutôt sur de l'endurance, donc sur des courses de 24 heures? Est-ce que les deux préparations diffèrent, ou est-ce que finalement vous faites tous les deux de la moto, donc c'est à peu près similaire?
Non, c'est à peu près similaire. Ouais. Je pense que bien sûr, nous c'est plus long, donc je pense sur le foncier faut être quand même un peu plus solide sur le foncier, parce qu'on fait des courses des relais de 1 heure, donc c'est des courses de 40 minutes, donc déjà rien qu'un relais c'est plus long que leur course, et puis après bon, on en a 8 ou 9 à faire, c'est des courses de 24 heures, donc physiquement c'est, automatiquement c'est quand même un peu plus dur, éprouvant surtout, donc faut réussir peut-être à se connaître un peu mieux et faire plus attention à son alimentation et faire un petit peu attention au scooter. Maintenant, le MotoGP, il faut également être très préparé, parce que c'est des motos qui sont très physiques, et ils mettent beaucoup d'intensité pendant 40 minutes, et surtout, ils enchaînent pas mal de courses à l'année, donc faut quand même qu'ils soient quand même très préparés. Alors, c'est pour ça que je pense que l'entraînement reste similairement pareil entre nous et les pilotes de MotoGP.
Et puis donc, on rappelle que tu as fait 9 relais dans ces 24 heures du Mans, donc ça veut dire... ça veut dire presque 9 heures de moto au final dans cette journée.
Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Tout à fait. C'est assez long.
Et donc, ces 24 heures avaient super bien commencé pour vous, puisque vous attrapez la pole position.
Ouais,
donc ça partait bien. En plus, il y a des points, il y a des points de la pole, donc vous prenez la tête du championnat. Et puis malheureusement, il y a ce deuxième virage où Josh Hook et toi vous êtes sur la même trajectoire et que malheureusement tu vas au tapis et du coup ce qui fait que de premier vous dégringolez à la dernière place. Donc j'imagine que c'était vraiment compliqué de voir finalement tous vos espoirs douchés en l'espace de 15 secondes.
Ouais, après on se rend pas forcément compte de tout ça, on est dans l'action.
Ouais.
Effectivement, on a bien commencé la semaine avec des bons essais et puis aux qualifications, on a su être performant au bon moment et prouver qu'on était bien là. Donc on fait la pole position. En endurance, c'est pas très important si on part premier ou cinquième, mais effectivement, il y a 5 points à prendre et c'est important pour nous pour le championnat. C'était chose faite. Ensuite, au départ, on n'avait pas forcément de pression. On savait que les équipes fortes étaient les mêmes, donc c'était la Honda TSR, la Yart et puis la BMW. Et on s'est dit voilà, on va partir sereinement, imposer un rythme tranquille au début, puis on verra dans la nuit comment ça peut se dérouler, s'il faut forcer ou pas forcer selon effectivement la course du moment. Après mon départ, donc j'ai pris un bon départ, j'étais en tête de la course. Et le premier virage, donc la courbe de l'Ob, c'est un virage qui passe à peu près à 200-220 km à l'heure. Et dans ce virage, je suis rentré sur ma trajectoire normale, la trajectoire parfaite dans le virage. Et donc je déclenche mon virage, je rentre dans le virage et arrivé quasiment au point de corde, je me fais rentrer dedans par Josh Hook qui était sur la moto numéro 1, la Honda. Et donc en conséquence, avec l'impact, ça me déleste les roues et donc je tombe, une chute assez rapide. Malheureusement, c'est considéré comme un fait de course, c'est comme ça. C'est vrai que les caméras qui ont été prises au Mans étaient focalisées sur la chute qui a eu au départ, un pilote qui est tombé au départ de course.
Oui, je crois que c'était la polonaise, la 777.
Ouais, tout à fait, ouais, 777. Donc du coup, c'était compliqué pour tout voir, mais au final, les prises de vue sont prises de très loin devant ou très loin derrière. Et ça écrase un peu l'image et on a l'impression qu'on est à peu près au même niveau. Et au final, il était bien une vingtaine de mètres derrière moi, ce qui fait que moi, quand je rentre dans ma trajectoire, lui, il est rentré beaucoup trop à l'intérieur, a été un petit peu optimiste en coupant les gaz un peu tard, ce qui fait qu'il s'est retrouvé en système entonnoir et il s'est retrouvé coincé avec une moto beaucoup plus droite et le virage, il allait un peu le louper, sauf que entre le loupé du virage et moi, donc oui. Il est venu taper sa roue avant, en fait, dans mon dos.
Oui, au final, t'as été une victime collatérale de son raté, quoi.
C'est ça, exactement. Oui. Donc c'était un peu un mauvais calcul de sa part. On a pu échanger pendant la course d'ailleurs, on s'est écrit et puis après on s'est vu après la course, il s'est excusé et bien sûr c'était pas loin d'être intentionnel de sa part, mais effectivement c'était une manœuvre un peu mal calculée et malheureusement c'est pas très intelligent de, comme on lui a dit, de faire ça sur un départ de course de 24 heures où on sait que c'est pas le plus important d'aller premier virage, on a énormément de temps pour le faire. Comme je disais, si c'était un pilote peut-être d'une moto privée qui voulait absolument se montrer et être en tête de la course, on peut éventuellement le comprendre. Mais on sait que Josh Hook fait partie des hommes forts de la course, donc il n'y a pas forcément de raison de absolument vouloir passer au premier virage. Mmh. Donc malheureusement, j'étais un peu la conséquence de tout ça et c'est nous qui ont subi cette course là. Il a eu la chance de pas tomber ensemble parce qu'on a plusieurs angles photo et il était vraiment pas loin de tomber non plus, donc ils ont eu quand même de la chance dans leur manœuvre.
Tu lui en veux?
Non, bah au final voilà, et c'est pas, on a discuté ensemble bien sûr, il y a cette non compréhension en disant pourquoi est-ce qu'il a fait cette erreur, un pilote aussi expérimenté qui connaît les courses de 24 heures et qui connaît les enjeux. Pourquoi il a voulu absolument essayer de passer? Pourquoi est-ce qu'il a un peu mal calculé son coup? Pourquoi il a voulu être aussi optimiste à se dire tiens ça passe là? On connaît pas forcément les raisons. Maintenant, c'est vrai qu'un départ de course, il y a toujours l'adrénaline. C'est des courses où on est sous pression, on veut rouler vite et donc ça peut peut-être m'arriver à moi aussi de faire une erreur pareille. Alors j'en veux pas forcément, surtout que Josh c'est un pilote et j'étais coéquipé avec lui, on s'entend très bien, on se connaît bien, donc il y a pas de rancune, mais j'espère qu'il en retiendra les leçons pour la prochaine course et les prochaines fois et ne pas réitérer une telle erreur parce que ça peut être lourd de conséquences pour d'autres équipes ou même pour lui.
Oui, parce qu'en plus vous allez forcément vous retrouver notamment sur Spa puisque vous prenez souvent les départs tous les deux et puis bah, vous êtes souvent bien classé sur la grille de départ, donc vous allez sûrement vous retrouver du côté de Spa là sur ce premier virage.
Bien sûr, on se trouvera sûrement à Spa, on discutera ensemble aussi dans le paddock, et puis sûrement aux essais aussi, on aura l'occasion de se voir. Donc voilà, il faut pas qu'il y ait d'amertume et de problèmes, c'est bien d'avoir ce respect, mais on a pu discuter avec d'autres pilotes, comme Marvin Fritz, et puis qui était aux premières loges pour le voir, oui. Et même lui, il m'a dit qu'il comprenait pas forcément pourquoi Josh a voulu absolument plonger à cet endroit-là et rentrer dans ce virage aussi vite. Pour essayer de passer, c'était assez surprenant de qu'il fasse ça en fait. Même lui était surpris. On a tous entre les pilotes un peu officiels un respect commun les uns envers les autres. Et on sait que bien sûr on se bagarre en course, c'est important de se bagarrer, enfin, le spectacle, et que bien sûr le meilleur gagne. Mais quand on essaye de se doubler, on le fait d'une telle manière avec du respect proprement pour pas faire des choses comme ça. Si un pilote est plus rapide que l'autre, ben on double intelligemment et le pilote a toute la course pour partir et imposer son rythme sans devoir forcément essayer de passer un trou de souris et créer des risques pour soi-même et pour les autres.
Quoi. Une 37-153, c'était votre temps de qualification. Est-ce que c'est un temps de référence?
En fait, le temps de qualification, c'est pas forcément un temps de référence, non, parce que en fait, la piste était plus simple de pluie. Et il y avait un drapeau rouge pour les qualifications et à cause de l'huile sur la piste. Et quand on est reparti, la piste avait séché. Et donc moi, je faisais partie de l'un des seuls pilotes qui a pris le risque de passer les pneus slick sur une piste qui était encore un peu humide. Donc j'ai réussi à faire un chrono d'une 37.5 alors que j'ai fait la pole position avec une seconde 4 d'avance sur le deuxième. Donc c'était un chrono assez exceptionnel à ce moment-là, puisque la piste était humide avec des pneus secs, il fallait oser le faire. Mais aux essais Prémont, le record absolu de la piste a été battu aux essais Prémont, qui est de 34.7 maintenant.
Donc ah oui. Le record de Karel Anika ne tient plus du coup.
Bah c'est lui qui l'a refait. Ouais.
Ah d'accord. Okay.
Ouais, moi j'ai fait une 35.0 Prémont et lui il a fait 34.7. Ouais.
Sachant que votre meilleur tour en course c'est une 36.3 777.
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Je crois que c'était Masson qui le fait, non?
Non, c'était moi.
Ah, excuse-moi alors, dans ce cas-là.
Non, pas de problème.
Et donc derrière la chute, malheureusement, tu ramènes la moto dans les stands tant bien que mal, et s'en suivent deux réparations, donc 27 minutes de réparation pour la première, et puis vous rentrez encore pour 4 minutes, ce qui fait au final 20 tours de perdu, et donc une 54e place au classement. À ce moment-là, forcément, vous faites la course, mais plus dans le même objectif que vos concurrents. C'est du coup l'objectif de remonter le plus haut possible. Dans quel état d'esprit on est quand on est en chasse pendant 24 heures?
Bah bien sûr, c'est dur mentalement, faut réussir à être solide et à rien lâcher à ce moment-là. La moto quand elle tombe, je crois qu'elle a fait énormément de tonneaux, donc je me doutais bien que l'état était assez.
Oui, d'ailleurs, c'est impressionnant le fait que elle a fait beaucoup de tonneaux effectivement, et c'était vraiment bien déjà qu'elle puisse redémarrer au final.
Ouais, alors on démarrait, après c'est coupé, donc j'ai quand même dû la pousser un paquet de temps. La roue a été crevée, donc c'était un peu éprouvant physiquement de ramener la moto au stand, mais ça a été la chose faite. Et ensuite, les mécaniciens ont fait un boulot incroyable sur la moto, ils ont mis très peu de temps à la réparer vu l'état de la moto. Et donc on est reparti avec un paquet de tours de retard. L'objectif, bien sûr, à ce moment-là, il est de continuer à rouler vite, comme si on était en tête de la course, c'est la même chose. On est toujours là pour donner le maximum de soi-même. Donc après, on s'est dit voilà, on va continuer notre travail, rouler au maximum, faire le job, et puis on comptera les points en fin de course, ce qui est possible ou pas. Et à partir de ce moment-là, on est parti. On a tout donné pour rouler au plus vite possible. On a dû les trois premiers relais, donc il y avait moi, puis Sylvain et après Étienne. La moto avait zéro électronique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de traction contrôle, anti-patinage, gestion de puissance ou anti-wheeling, donc ce qui empêche la moto de faire les roues arrière. Et du coup, elle était assez compliquée à piloter. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de la rentrer au stand pour quelques minutes pour tester tous les capteurs et changer les capteurs qui étaient en panne pour nous faire repartir en course en toute sécurité, et au moins qu'on ait une moto pendant les 20 heures restantes, une moto confortable et qui ressemble plus à une moto avec laquelle on a l'habitude de rouler. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, on a fait des relais très solides, on a roulé vite, on était souvent les plus rapides en piste, que ça soit de jour ou de nuit. J'ai pu rouler avec l'équipe du YARC KNW, les doubler, rouler avec eux, donc on sait qu'on avait pertinemment le rythme des premiers. On aurait pu jouer la victoire, c'est clair et net. Maintenant, nous on a fait notre job, on essaie de pas faire d'erreur, et on s'est dit voilà, il faut donner le maximum de nous-mêmes pour remonter. Et c'était chose faite, on a enchaîné, la moto a été à 100% fiable toute la course. On a eu zéro problème, que ce soit au niveau ravitaillement, on n'a pas eu de panne sur la moto. Et donc ça nous a permis de rouler dans de bonnes conditions et tout le monde de prendre plaisir à rouler. Et en roulant vite, on a eu des conditions qui étaient quand même difficiles, fraîches, avec du brouillard, c'était vraiment pas facile à rouler.
Oui, le dimanche matin notamment, c'est vrai qu'il y a pas mal de brouillard.
Ouais, tout à fait. Des conditions vraiment climatiques difficiles, mais on a prouvé qu'on était présent, on baissait pas les bras, et que malgré tout, il fallait compter sur nous. Dans tous les cas, on avait 20 tours de retard sur quasiment la dernière place, et donc on était 54e et on finit 7e. Oui. Ce qui est un résultat assez incroyable, surtout que souvent sur les courses, il y a plusieurs motos officielles qui arrivent à tomber en panne. Ça arrive régulièrement, comme nous au Bol d'Or ou les dernières, la Yamaha Spa. Enfin, il y a toujours une, deux ou trois motos officielles qui sont amenées à avoir des problèmes techniques ou à tomber. Et là, exceptionnellement, sur cette course-là, aucune des motos officielles est tombée en panne. Et les sept motos officielles, elles ont fini les sept premières places.
Donc, bah oui, ça montre, c'est ce que j'allais dire, justement, vous terminez septième, et c'est vrai que pour c'était la meilleure place que vous pouviez atteindre, du coup, avec cet incident. Et puis c'est vrai que pour aller plus haut, bah, il aurait fallu un peu de casse devant, ce qui n'est pas arrivé.
C'est pas arrivé, on peut toujours espérer un peu de malheur chez les autres pour avoir un peu de malheur chez nous, mais là, du coup, c'est pas arrivé. Donc, on a fait notre job. On est remonté à la septième place. On est passé à travers les gouttes, on va dire. Et juste, en fin de course, Sylvain, qui a eu une glissade sur l'huile, il n'est pas tombé, mais il était toujours dans le bac à gravier. Et il a tapé les pneus au fond du bac à gravier, donc il est passé par-dessus la moto, il s'est un peu fait mal au cervical. Du coup, il a ramené la moto au stand, tant bien que mal, parce que ça avait cassé un boulon de l'amortisseur arrière. Une vis, et du coup, ils ont dû remplacer ça, mais ça a mis une petite minute ou deux, et donc on n'a quasiment pas perdu de temps. Mais sinon, on a eu zéro souci, donc ça prouve que notre force, ça prouve qu'on a été bon. Maintenant, bravo aux autres équipes, parce qu'ils ont eu zéro panne aussi. Je pense que les conditions fraîches ont permis aux motos de moins souffrir, et le nombre de safety cars qu'il y a eu pendant la course ont également permis aux autres motos peut-être de récupérer un petit peu, de souffler un peu, et du coup, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a eu et moins de panne mécanique.
Alors qu'au contraire, pour vous, les safety cars, c'était un peu l'ennemi, parce que ça vous faisait un peu moins de temps pour remonter et pour gagner du temps sur les équipes de devant.
C'est exactement ça, ouais. Ça nous a pas porté chance. On a.
Et puis en plus, il me semble qu'il y a deux safety cars, et notamment sur le premier ou le deuxième, vous êtes malheureusement sur le mauvais safety car, et du coup, vous perdez un demi-tour pratiquement.
Ouais, ça nous est arrivé, je crois, on est tombé sur cinq mauvais safety cars. On a vraiment pas eu de chance.
C'était vraiment pas le week-end alors.
Ouais, c'est ça, ouais, c'était le premier safety car pendant que le mécanicien répare la moto, la course était pas neutralisée, c'était sous drapeau vert, donc c'était la course. Oui. Et au moment où il répare la moto, on sort la moto des stands, au moment même, il sort un safety car. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nous on va au feu, on attend quasiment une minute de plus au feu au bout, feu rouge. Et ensuite quand je pars avec une moto qui venait d'être remontée, avec des pneus neufs, avec 5 degrés. Et donc les pneus qui ont refroidi, moi qui venais de tomber, et donc il a fallu, après le safety car, réussir à mettre les pneus neufs en température sans électronique sur la moto. C'était pas chose facile. Et après, Sylvain a également eu deux fois le safety car qui est sorti devant son nez. Ça veut dire qu'à chaque fois on perd un demi-tour. Oui. À deux secondes près, il passait derrière, quoi. Donc ça veut dire qu'on gagnait un demi-tour. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc ouais, forcément. Un peu frustré de cette course où la chance n'était clairement pas de notre côté, mais on va dire que les deux dernières éditions, on les a remportées, on a eu de la chance aussi de notre côté, donc comme on dit, la chance tourne, la roue tourne, et espérons qu'elle tourne rapidement pour qu'elle elle revienne de notre côté.
Et d'ailleurs, tu tombes à grosse vitesse, c'était une grosse chute, comment ça va physiquement? On t'a vu repartir dès que la moto était prête, mais est-ce que, enfin, physiquement, ça, tu vas bien?
Ouais, j'ai pris quand même une bonne brasse, comme on dit, ça secoue un peu, je suis tapé de 2 cm/h, puis j'ai des douleurs un peu partout, et surtout au poignet, là, j'ai fait une radio, donc j'ai une petite fracture du niveau du scaphoïde, et donc, pour la course, c'était assez douloureux de pouvoir faire cette course-là, mais au final, ça, avec le mental, ça a réussi à passer, et on a réussi à s'en tirer.
C'est Quel Dur Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Merci de votre fidélité. Nous retrouvons Greg Black qui répond aux questions de Christian et Dédé.
Je vais donner donc les résultats. Vous terminez donc 7e de cette course, remportée par la TSC Ronda de Mac Demiglio, notamment de Josh Hook et d'Alain Teixeira, qui est transfert de la Tati Team. Premier, la moto championne du monde. Deuxième, le Yart. Troisième, la BMW. Quatrième, la Honda Viltais. Cinquième, la Ducati. Sixième, le Tati Team. Et donc, vous faites 7e. Donc, au final, vu ce week-end où pas grand-chose vous a réussi, malheureusement, où les vents étaient un peu contraires, Bah, vous limitez la casse au championnat du monde.
Ouais, on limite la casse. On a finalement, je crois, 23 points à côté de 63 de la Honda. On a 40 points de retard. Maintenant, il y a énormément de points à jouer. On sait que Bol d'Or, les points sont multipliés fois et demi. Donc, il y a quasiment, il y a 90 points à peu près à jouer. Suzuka plus les 24 heures à Spa. On sait qu'on a encore aux alentours de 200 points à jouer sur l'année. Rien n'est perdu, on a marqué des points. On aurait pu, à ce moment-là, au moment où je me fais percuter, où la course devient compliquée, j'aurais pu me blesser beaucoup plus, j'aurais pu avoir des problèmes au niveau des cervicales, avoir une fracture, avoir une moto qui était complètement détruite et impossible à ramener. Derrière cette chute, on aurait pu aussi casser un moteur, parce que le moteur fait énormément de tonneaux, et normalement les moteurs, ils aiment quand même pas trop ça. Et finalement, voilà, faut en tirer les côtés positifs. On a réussi tout de même à revenir, à finir septième à la course avec tout ce temps passé au stand et on a montré qu'on était performant, donc rien n'est perdu. Et je pense que cette année, contrairement aux autres années, nous on avait la pression parce qu'on était devant, on essayait de maintenir notre rythme et pas faire d'erreur. Et maintenant c'est aux autres équipes d'avoir la pression parce que on sera bien présent sur les autres courses, on va attaquer et puis et c'est surtout à eux de se méfier maintenant.
Oui, d'avoir le numéro 1 sur la moto, justement, ça, est-ce que ça amène un peu plus de pression? Est-ce que finalement on passe un poil plus inaperçu, même s'il certes ne passe jamais inaperçu en endurance, mais est-ce qu'avec le numéro 12 on passe peut-être un peu moins aperçu?
Bah, surtout quand on gagne pas la première course, c'est surtout ça. Donc la Honda numéro 1 gagne la première course, c'est exactement notre cas l'année dernière, et ça met quand même une certaine pression. Donc je pense que nous on a l'expérience de la gérer. Eux, je pense moins, donc ça sera plus difficile pour eux de la gérer, de passer derrière sur les prochaines courses. Et je pense que pour eux, ça sera d'autant plus compliqué de garder ce numéro 1.
J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le stand, parce que c'est vrai que bon, le pilotage, on le voit, vous êtes franchement vu par le public et par les caméras. Et moi, j'aimerais que tu nous fasses connaître un petit peu le stand, parce que il y a le pilotage. Mais il y a aussi les gens qui s'occupent de la moto. Combien sont-ils? Combien il y a de mécanos? Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le stand, s'il te plaît?
Ouais, alors, dans le team, il y a un peu 30 à 35 personnes entre le kiné, les cuisiniers, les accompagnants, les mécaniciens, techniciens, ingénieurs, chefs mécanos. Il y a un peu de tout dans le team. Il y a tous les postes. Dans le box, principalement, il y a les gens qui s'occupent de l'essence, de la gestion de l'essence de la moto. Donc, il y a quelqu'un qui met l'essence dans la moto, qui fait les réservoirs, quelqu'un avec l'extincteur, c'est obligatoire, mais surtout la personne qui gère la consommation. Il y a des gens qui gèrent l'électronique de la moto, il y a des gens qui sont poste pour la stratégie de course. Damien Sonnet qui est manager, avec Yuri Kato qui est le japonais, qui est directeur de l'équipe, qui lui gère un peu tout ce qui est stratégie également. On a chacun au moins un ou deux accompagnateurs pour les pilotes, pour nous aider. Après, on a un chef mécanicien qui lui gère tout ce qui est plan de séance, mise en place, comment construire une séance et les réglages châssis de la moto. Et ensuite, en mécanique, il y a un mécanicien qui met principalement la partie arrière, l'autre la partie avant, et après ravitaillement, et bien sûr bah, tous les autres gens qui sont autour. Donc ça représente quand même un gros staff et ça demande à être bon et performant sur chaque poste, et notre équipe ils le sont.
Je suppose que vous êtes relié avec les mécanos, ou vous êtes comme ça sur le circuit?
Non, alors en moto
mais il y a pas de c'est ce que disaient les commentateurs d'Eurosport, il y a pas d'oreillette au final.
Ah, il y a pas d'oreillette.
Vous communiquez avec les panneaux sur les stands?
Ouais, c'est ça, gestes. Pas de télémétrie et pas de communication entre le team et les pilotes. Ça se fait uniquement par panotage, par geste, et pareil pour les réglages de la moto, tout se fait en acquisition de données. Donc une fois qu'on branche la moto, qu'ils avaient récupéré les données.
D'accord. C'est peut-être dangereux, peut-être, si c'était relié à une
personne. Je pense que c'est une question de coût, je pense, c'est une question de volonté du championnat. Ouais.
Et puis d'ailleurs, en parlant des petites confidences, moi j'aimerais aussi que tu nous parles de deux choses. La première, c'est lorsque tu descends de la moto, tu passes le relais à Sylvain Gattoli, il y a toujours un échange entre vous. Grosso modo, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que les échanges évoluent au fil de la course?
Ouais, ça dépend, c'est toujours important d'échanger avec ses coéquipiers pour qu'ils partent sereinement sur leur relais. Ça peut être les points clés, donc ça peut être les conditions de piste, ça peut être les températures, certains virages qui peuvent être délicats, ça peut être un problème sur la moto, le type de pneu qu'on utilise, ça peut être plein de choses, des informations, on va dire, importantes qu'on communique à l'équipier, des éléments clés pour qu'il soit simplement sur Reims à la moto et que le relais se déroule bien.
Stand avec, j'imagine que c'est un ingénieur de la moto. Pareil, là, c'est, tu lui parles du comportement de la moto à chaque relais.
Ouais, bah, d'abord, la chose primordiale qu'ils veulent savoir, c'est notre voyant d'essence. Quand le voyant d'essence s'allumait, combien de distance on a fait avec le voyant d'essence pour qu'ils calculent précisément, savoir si tout est OK et voir si tout fonctionne bien, leurs calculs qui sont bien effectués. Selon la quantité d'essence qu'il y a dans le réservoir, et bien connaître ce point précis, et ensuite effectivement l'état de la moto, savoir l'évolution de la moto face à la course, ça peut être la boîte de vitesse, les pneus, comment ils fonctionnent, à quel moment par rapport à la température, comment vont les freins, comment va le moteur de la moto, plein de choses différentes, et donc ils prennent note de tout pour que la situation se déroule bien pour toute la course.
Les relais, c'est tous les combien?
Ça dépend les circuits, ça dépend.
Mais comme 24 heures, par exemple.
Ça dépend principalement de la consommation de la moto, donc ça dépend du circuit.
Ah, d'accord.
On a un réservoir qui fait 24 litres, donc on essaye de tirer profit du maximum, donc de travailler sur l'économie d'essence sans trop jouer sur la puissance. Et donc, c'est comme le Castellet, qui est une grande piste, ça va plutôt être aux alentours des 50 minutes. Alors que le Mans, c'est un circuit où on tire un peu moins dans le moteur, on est un peu moins à 100% de gaz. Donc les relais sont un peu plus longs, ils sont de 56 minutes à peu près.
D'accord.
Sachant que donc vous avez tous 24 litres d'essence dans votre réservoir, mais ce qui est une constante avec ton équipe, c'est que vos relais sont un peu plus longs que ceux de la concurrence.
Ça dépend des ingénieurs sur la moto, ça dépend justement les ingénieurs qui travaillent tout au long de la semaine et tout au long de l'hiver pour travailler sur l'ergonomie du moteur du réservoir. Vraiment faire un réservoir où l'essence arrive à utiliser toute l'essence et puis après automatiquement travailler sur la consommation, l'injection de la moto pour qu'elle soit la plus économique possible sans perdre la performance. Et la Suzuki aujourd'hui reste une des meilleures motos de ce côté-là avec la BMW.
À votre niveau, on peut être pilote jusqu'à quel âge?
Mon coéquipier Sylvain Catelli a 42 ans et il se débrouille quand même pas trop mal, donc on va dire que ça va à peu près jusqu'à cet âge-là à peu près.
Ouais, je vous posais cette question parce que à vous écouter, j'ai bien compris que c'était physique, c'était un sport difficile et je me demandais s'il y avait un âge pour arrêter.
Ouais, je pense que c'est le mental, la forme physique et puis la motivation qui fait notre continuité ou pas, et également les performances. Vincent Philippe, il a arrêté à l'âge de 41 ans. Beaucoup de pilotes arrêtent aux alentours de entre 40 et 45 ans, selon.
Donc, ça te laisse combien, toi, Greg?
Comment?
Ça te laisse combien?
Ça dépend de ma forme physique. Pour l'instant, j'ai 34 ans, donc peut-être,
T'as le temps,
peut-être
t'as
5
le temps.
Ans, peut-être 6 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Je sais pas.
C'est ce qu'on souhaite, en tout cas.
Sachant qu'il y avait un pilote anglais qui était sur la course et qui avait passé la cinquantaine.
Ouais, tout à fait.
D'ailleurs, c'était ses premiers 24 heures, il me semble.
C'était un ancien très bon pilote de Super Dimension Bike, qui est un pilote très connu à l'époque.
Et puis, en parlant des pilotes, il y avait aussi deux autres Charentais sur la ligne de départ. Malheureusement, c'est deux pilotes qui n'ont pas réussi à terminer la course. Julien Pilot sur la 24, qui malheureusement, son collègue s'est fait percuter par un motard et donc ils avaient continué la course à deux, mais pour finalement abandonner. Et puis Maxime Pellizotti sur la 86, la pit lane endurance, qui lui aussi malheureusement a pas terminé la course. Alors j'avoue que je sais pas pourquoi, parce que je me suis endormi à ce moment-là. D'avoir d'autres charentais sur cette épreuve, est-ce que vous échangez aux 24 heures? Enfin, comment ça se passe?
Je les connais bien tous les deux. On a fait plusieurs choses ensemble. Donc les connais bien. Je joue souvent au padel avec Maxime, donc on se voit régulièrement et donc la semaine on a échangé et effectivement il fait partie d'une équipe en catégorie stock et ils étaient quand même assez performants, ils faisaient une belle course. Je crois que un de ses coéquipiers est tombé et suite à sa chute le moteur il a justement pas trop apprécié et donc ils ont une casse moteur derrière ça à cause de la chute. Donc ils n'ont pas pu finir l'épreuve, mais je pense qu'ils auraient fini dans le top 5 en catégorie stock, ils étaient bien partis pour. Malheureusement, les chutes, des fois ça ne part même pas toujours. Et là, pour le coup, c'est le moteur qui en a souffert.
C'est Quel Dur Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Merci de votre fidélité. Nous retrouvons Greg Dac, qui répond aux questions de Christian et Dédé.
Maxime Pellizotti, finalement, il est plus jeune que toi et puis il évolue en stock. Est-ce que ça te fait penser un peu à toi il y a quelques années? Est-ce que tu as un petit rôle de mentor auprès de lui?
Ouais, j'essaye justement de lui donner des conseils pour aller plus vite et plus vite dans les échelons, pas sur la piste, parce que ça, il sait faire. mais aller plus vite dans les étapes de sa carrière, essayer de lui trouver des bonnes places et essayer de le faire évoluer plus rapidement. Il aurait quelques conseils à lui un petit peu. Et il est jeune, il est performant et je pense qu'il a sa place, une place certaine dans le milieu de l'endurance. Et j'espère pour lui qu'il va pouvoir montrer ses performances lors des prochaines courses. Et justement évoluer rapidement pour pourquoi pas arriver en WC dans les prochaines années ou même d'abord gagner en catégorie stock, et je pense que c'est des choses qui sera largement possible pour sa part.
Ouais, et puis là c'est un avenir complètement imaginaire, mais si on montait avec Didier et Attitude, avec tout l'argent de la radio, une team Charente avec le numéro 16 bien sûr sur la moto, entre toi Julien et Maxime qui prendrait le départ, j'imagine que c'est toi Greg.
Bon, ça dépend, on dira que c'est le plus rapide aux essais, ça peut être n'importe lequel d'entre nous, tout dépend de comment ça peut se dérouler, mais le but, peu importe le départ, c'est le plus important, ce qui compte, c'est surtout l'arrivée.
Oui, tout à fait.
Greg, tu évoquais les prochaines courses, donc la prochaine c'est Spa-Francorchamps, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette course-là? Il y a encore des incertitudes qui pèsent là-dessus, non?
Oui, ils ont parlé justement ce week-end de 24 heures du Mans, que c'était un peu incertain du fait du roulage de nuit par rapport aux conditions l'année dernière qui étaient un peu dangereuses avec l'éclairage. Donc on a entendu parler vaguement pour l'instant qu'il pourrait y avoir éventuellement deux courses séparées, le samedi et le dimanche, mais on ne connaît pas encore la durée. Et d'ailleurs, ce sont que des roudis pour l'instant, donc on est vraiment incertain. Cette course-là, en tout cas, elle aura lieu. On sera bien présent aux dates à Spa-Francorchamps. J'ai hâte d'y être, hâte de faire la course. Maintenant, si c'est un format différent, pourquoi pas? Et si ça reste un format de 24 heures, on connaît, donc on sera dans tous les cas, on sera là, on sera présent et on sera aux avant-postes pour défendre une nouvelle victoire.
Pour rappeler les dates?
Les dates, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ce soit, je crois, le 17 et 18 juin.
Oui, c'est au mois de juin, ça c'est sûr.
Ouais, 17 et 18 juin, ça va être, ouais.
Mais ça veut dire que s'ils changent de format de la course, s'ils font deux courses, par exemple, le barème de points va forcément changer aussi.
Bon, on ne sait pas du tout. Franchement, je préfère pas me prononcer dessus parce qu'on n'a absolument aucune idée comment ça va fonctionner pour l'instant.
Donc, bon, d'ici là, du coup,
le format 24 heures et puis après on verra.
Oui, tout à fait. Et d'ici là, donc, c'est dans 2 mois. Quel est ton planning, grosso modo? J'imagine déjà de la récupération par rapport à ton scaphoïde et puis après de l'entraînement pour arriver à Spa plein pot.
Ouais, bah à côté de ça, j'ai une société de baptême moto, Tour Ride Baptême, où on effectue des baptêmes en passagers sur nos motos sportives, avec justement Lucas Mayas qui roule aussi en endurance. Et donc on a plusieurs dates, notamment au circuit du Val de Vienne, où on a aussi Manicourt, Nogaro, Pouarnos, Fontaine-Comte. C'est les pistes où on effectue ses prestations. Et on a quand même pas mal de clientèle qui viennent découvrir notre sport, ça c'est hyper intéressant. Donc on a plusieurs dates qui se lancent, le projet qui repart bien cette année. Et après, à côté de ça, je suis moniteur pour des écoles de pilotage sur le circuit du Jean ou d'autres circuits. Justement, ce week-end, je vais travailler sur le circuit de Manicourt pendant 3 jours en tant que moniteur. Donc on a quand même pas mal de travail, j'ai pas mal de boulot à côté. Et effectivement, récupérer, m'entraîner et être prêt pour cette prochaine épreuve.
Tu vas disposer de la moto de course pendant combien de temps, Greg, entre Le Mans et Spa-Francorchamps?
La question, c'était?
Tu vas disposer de la moto de course pendant combien de temps?
Là, on va la moto de course, je vais pas du tout l'utiliser, hein, je vais pas rouler dessus.
Il y a des essais pré-Spa ou pas, d'ailleurs?
Non.
D'accord, donc au final, tu auras la moto que la Spa?
C'est ça.
Sur la semaine d'avant-course?
Exactement, ils ont réduit la semaine, donc d'habitude, on roule le mardi. Et là, ça a été annulé la journée de mardi, donc il y a une journée qui se fait normalement le mercredi. Et c'est tout, en fait, mercredi. Après, les qualifications le vendredi et la course directement samedi.
Bon, et puis moi, j'aimerais terminer cette interview par ton expérience sur les 8 heures de Suzuka, d'autant plus que avec Yoshimura, qui s'est vraiment hyper investi dans le CERT depuis 2 saisons, j'imagine que d'aller chez eux, peut-être de voir leur usine et de voir... Alors il y a certains peut-être techniciens japonais qui vous accompagnent sur les courses européennes, mais de mettre les deux pieds chez eux, ça a dû être spécial pour toi qui pilote pour eux.
Ouais, mais c'est toujours un moment un peu unique d'aller au Japon chez eux avec leur culture et de pouvoir partager ces moments avec vraiment des Japonais ensemble et dans une équipe, une marque telle que Yoshimura, qui est une marque connue mondialement, et donc c'est une fierté de pouvoir être chez eux, sous contrat avec leur usine, avec Suzuki, avec Yoshimura, et surtout d'avoir leur respect, puisqu'ils nous engagent pour faire cette course-là, ils nous font confiance, et d'avoir la confiance de ces personnes-là, ça fait vraiment plaisir, et ça montre que on est performant, et qu'on fait le job, et c'est important, et surtout que l'année dernière, à Suzuka, on a pu faire un résultat excellent, et ça fait plaisir, ouais.
on a vu plusieurs, notamment la moto qui gagne avec des Japonais. Est-ce que tu penses que dans un futur plus ou moins proche, on pourrait les voir sur les autres courses ou finalement ils sont vraiment focus que sur leur épreuve à Suzuka?
Ils sont très focus uniquement sur une épreuve. Les seuls équipages qui, depuis quelques années, ont fait le pas pour venir en championnat du monde, c'est l'équipe TSR et après l'équipe Yoshimura qui a un peu suivi en se travaillant avec le CERT. Et c'est très compliqué pour eux d'aller sur d'autres épreuves. Il y a un règlement un peu particulier et différent pour Suzuka. Et aujourd'hui, ils ont clairement un petit avantage là-bas. La Honda officielle a clairement un petit avantage sur nos motos de championnat du monde. Donc, quand on est à armes égales, par exemple, s'ils viennent de 24 heures du Mans ou d'autres épreuves, ils auront beaucoup moins de facilité à faire la différence comme ils le font là-bas. Donc, ils le savent. Eux, pour eux, ils investissent énormément d'argent pour cette épreuve-là. Mmh. Et leur objectif premier est de gagner les 8 heures de Suzuka pour créer une communication d'image qui est une plus-value à leur marque pour vendre des motos dans tous les pays asiatiques.
Pour terminer sur ça, l'ambiance à Suzuka, elle est différente du Castellet ou du circuit Bugatti, par exemple?
C'est sûr que après avoir vu les spectateurs en camping bleu ce week-end, l'ambiance à Suzuka n'est pas la même. Les gens sont quand même plus calmes. La façon de leur culture est complètement différente. Hein. C'est pas du tout la même approche que nous en Europe. Je dirais qu'en Europe, on est plus à l'esprit motard. On a énormément de c'est la fête. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui aiment bien qui sont présents pour faire la fête et pour voir la course en même temps, mais au Japon c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus dans le silence et ils viennent uniquement pour voir les motos et voir les pilotes et c'est une culture complètement différente qui est intéressante aussi à voir.
Quels sont les objectifs de la saison, Greg?
De gagner le maximum de courses possible pour récupérer le maximum de points et pour nous permettre d'être champion du monde à nouveau. C'est loin d'être encore fini, donc on va essayer de travailler, de revenir, être aussi fort qu'on l'a été au Mans. Si on peut être aussi fort qu'on l'a été au Mans à la prochaine course, sans se faire percuter, ça serait pas mal.
Et la concurrence, c'est la même que l'année dernière ou ça a changé ou pas?
Non, c'est très similaire.
On a retrouvé les mêmes. Pardon.
Non, c'est pareil, ouais, pareil.
D'accord. On te remercie encore une fois d'avoir accepté notre émission, d'être C'est très flatteur pour nous d'avoir un champion du monde qui nous accorde tant d'attention, qui est si disponible. Donc on va te souhaiter le meilleur, Greg. On va suivre avec attention donc ce qui va se passer cette saison. Merci encore de nous avoir fait découvrir le monde de la moto avec tout ce qu'il y a autour de la course. Merci de ton témoignage. On te souhaite le tout meilleur, Greg, et on te dit à très bientôt.
Et gentil, merci à vous et puis à bientôt.